Le Star Wars Universe Show, c'est tout de suite sur SWU.
You should all consider yourselves to be in my power.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Star Wars Universe Show. C'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, puisqu'il s'agit du dernier Star Wars Universe Show, en tout cas dans le format actuel de l'émission. Je vous invite à lire la news sur le site pour en apprendre un peu plus. C'est aussi une émission un peu spéciale, puisque je reçois aujourd'hui trois invités qui partagent un même métier, traduisent des livres Star Wars pour que nous puissions les lire en français. Nous recevons donc Lucille Gallio, qui travaille pour la Bibliothèque Verte.
Salut.
Axel Demoulin, qui traduit elle pour Pocket.
Bonjour.
Et enfin Thierry Arson, lui aussi sur les romans Pocket.
Bonsoir.
Comme vous vous en doutez, nous n'avons pas enregistré l'émission tous ensemble. Nous leur avons posé 10 questions, et nous avons regroupé leurs réponses pour l'émission. On commence avec des questions portant sur le métier de traducteur, et forcément la première question qui se pose, c'est comment en es-tu venu à faire de la traduction ?
Alors, en fait, après mon bac, j'ai fait un bac scientifique, mais je me suis rendu compte pendant ma terminale que c'était vraiment la philo, le français qui m'intéressait. Je m'en suis rendu compte un peu tardivement. Et donc là, je suis partie en prépa littéraire, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et j'ai fait une Pocagne et une Cagne. Et je ne savais pas du tout vers quoi je voulais aller. Et en fait, pendant ma Cagne, je me suis rendu compte que c'était vraiment l'anglais que j'appréciais beaucoup, et surtout la traduction. Et donc après ça, je suis allée en licence d'anglais. Comme je ne savais pas encore exactement quoi faire plus tard, prof, ça me disait vraiment, c'est pas du tout ma vocation. J'avais une petite idée avec la traduction, c'est pour ça que j'ai fait une option traduction en licence d'anglais. Mais bon, je ne savais toujours pas trop quoi faire, donc je suis partie pendant un an et demi, j'ai fait l'humanitaire. Comme c'était en Thaïlande, j'ai appris le Thaï, et je me suis rendu compte que le fait de se retrouver entre deux cultures et d'essayer de découvrir la culture de l'autre et de partager des cultures différentes et au travers d'une langue commune, ça m'a beaucoup plu. Et donc en rentrant, j'étais sûre de moi, ce que je voulais faire, c'est la traduction. Et en plus, ça me permettait d'être un pont, un lien entre les gens. Parce que il y a pas mal de monde en Thaïlande qui ne parle pas le thaï. Enfin, les étrangers qui viennent en Thaïlande en général ne parlent pas le thaï. Donc, quand j'ai reçu des amis, de la famille, tout ça, j'ai beaucoup aimé ce travail de transmission en fait des cultures. Donc voilà, quand je suis rentrée en France, je suis partie du côté de la traduction. Et donc là, j'ai pu intégrer une école qui est normalement en 5 ans. Je l'ai intégrée directement pour les 2 dernières années, comme j'avais déjà ma licence en poche. Et donc, ça s'appelle LISI, c'est une école de traduction et d'interprétation qui est à Paris et qui prépare pas tellement pour la traduction littéraire, mais plus soit de la traduction technique en entreprise, ou technique vraiment pointue, ou alors à des postes en fait de manager interculturel dans les entreprises. Et tout de suite, moi, j'ai compris que je voulais aller vers le littéraire. Ce qui fait qu'à la fin de ma deuxième année, là, j'ai fait un stage de 6 mois chez Hachette et j'ai découvert un univers fantastique, un univers d'édition. Alors, je n'étais pas stagiaire traductrice parce que les traducteurs sont tous extérieurs aux maisons d'édition, je travaille de chez eux, mais j'étais stagiaire éditrice. Ce qui fait que j'ai pu découvrir tout le travail que fait un éditeur à partir du moment où il reçoit un projet de livre, soit sous la forme d'un livre étranger, soit sous la forme d'une idée qu'il faut donner à des auteurs, soit sous la forme d'un manuscrit récupéré par un auteur. Et donc j'ai découvert tout l'envers du décor. Et ça m'a vachement plu. Ça m'a permis de découvrir ce que faisaient les éditeurs de mon travail une fois que je leur rendais. Donc voilà. Après ces 6 mois, j'ai semé comme une petite graine mon nom et mon numéro de téléphone dans tout Hachette. Et c'est comme ça que j'ai pu obtenir mes premiers contacts et commencer à travailler depuis chez moi.
Alors j'ai fait, donc je suis belge d'abord, je voulais le préciser. Et donc j'ai fait mes études à Bruxelles dans une école supérieure qui s'appelle l'Institut supérieur de traducteurs et d'interprètes. Et donc j'ai eu mon diplôme de traducteur anglais-russe, que j'ai complété par une année en Grèce pour apprendre le grec. Et puis voilà, j'ai bossé, pas vraiment comme traductrice, mais toujours avec des langues étrangères. Et donc il y avait toujours de la traduction qui se retrouvait dans mon boulot. Et au bout d'une dizaine d'années, bah, je me suis dit, j'ai envie de revenir beaucoup plus à ma formation initiale. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de tenter ma chance avec les livres et on m'a proposé du Star Wars. Voilà.
Bah en fait, c'est un parcours peut-être un petit peu atypique pour les gens qui maintenant veulent faire de la traduction, parce que moi, je n'ai pas suivi d'école de traducteur. Moi, ça a été en fait un hasard. Il s'est trouvé que quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup les Beatles, que j'écoutais en cachette de mes parents. Bon, je signale au passage que peut-être que je n'ai pas le même âge que tous les gens qui m'écoutent, c'est-à-dire que. Peut-être que je suis un peu vieux. Bon, je suis né en 57. Donc ça vous pose déjà le truc. Et ben moi, j'ai été en plein dans la vague des Beatles. Donc j'ai commencé à écouter les Beatles. Et puis après, je me suis intéressé à des textes un peu plus fouillés, c'est-à-dire Dylan. Après, j'ai vécu ma vie. J'ai raté, par contre, mes études. Qui n'a pas forcément été une mauvaise chose, donc j'ai même pas eu le bac. Et puis après, bah, je suis parti. J'étais en Normandie, je suis parti dans le sud. J'ai fait pas mal de boulot. Au bout de 7 ans, je suis remonté sur Paris. Et là, au hasard d'une soirée, j'ai rencontré quelqu'un qui était traducteur. Discuté, il m'a dit, et toi, tu fais quoi? Et moi, je lui ai dit, bah, moi, je fais rien. Et il m'a dit, pourquoi tu n'es pas traducteur? Du coup, je l'ai pris au mot, j'ai acheté le numéro spécial de Livre Hebdo où il y a, pour toutes les maisons d'édition, qui sont surtout à Paris quand même, les collections et le nombre de traductions qu'ils font. Et donc, évidemment, j'ai ciblé les traductions de l'anglais au français. J'ai tenté le coup, j'ai envoyé, je ne sais pas, une cinquantaine de lettres, et j'ai reçu bon, une demi-douzaine de réponses, dont une qui m'a envoyé un essai à faire. Et c'était les presses de la Cité. Et donc j'ai fait l'essai, et on m'a dit que c'était bon, et ben après, ça a démarré comme ça. Au début, j'ai fait des lectures, parce qu'il n'y avait pas de traduction. Donc ça consiste à lire un bouquin que la maison d'édition française, elle se pose des questions, elle se dit on va le prendre ou pas pour le faire traduire, et elle file à 4 ou 5 personnes pour avoir après un avis qui va dire si l'histoire est intéressante ou pas, si c'est novateur, et si ça vaut le coup ou pas. Bon. Donc j'ai fait ça pendant, je sais pas, 6 mois. Et puis à force de revenir à chaque fois pour ramener mes fiches de lecture, et à chaque fois je demandais est-ce qu'il y a quelque chose, un jour j'ai eu une traduction. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Quels sont les genres de livres que tu as traduits?
Donc j'ai commencé par Le pouvoir de la force et puis j'ai eu un contact avec une maison d'édition qui fait pas mal d'actualités, des biographies. Alors enfin, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est très très varié. J'ai fait un guide de voyage, des événements incontournables auxquels il faut assister dans le monde. J'ai fait la biographie de la princesse Middleton, la biographie de Hoover. Biographie d'un détective, enfin, vraiment beaucoup de choses et je sais jamais ce qui va tomber, quoi. C'est ça qui est très amusant.
Bah, j'ai traduit un peu de tout quand même, il faut dire. Bon, ça va de la SF au fantastique, à l'horreur, en passant par la fantaisie. J'ai aussi traduit des biographies du polar, des manuels divers d'astrologie, de comment gérer votre entreprise ou des trucs comme ça. Des précis d'échecs. J'ai traduit un truc qui était très intéressant, qui concernait la sagesse des anciens, sur les peuples d'Amérique du Sud, où y a un scientifique qui s'est penché là-dessus pour savoir comment ils fonctionnaient et la résonance que ça avait par rapport aux problèmes qu'on a maintenant. C'est un bouquin très intéressant d'ethnologie. Donc j'ai même traduit le Kama Sutra version britannique. Donc je veux dire, j'ai fait tout et des fois pas n'importe quoi, mais des trucs assez surprenants. Mais à chaque fois, c'est un plaisir. Et il faut savoir que un traducteur, s'il ne traduit pas uniquement du Star Wars, il va passer d'une chose à une autre. Et ça, il faut comprendre que le traducteur ou la traductrice, il faut quand même qu'il remplisse le frigo, quoi, ou qu'elle remplisse le frigo. Donc, de ce point de vue-là, on passe des fois d'un univers, par exemple, de Star Wars, à quelque chose de complètement différent. Donc, quand vous lisez deux Star Wars qui sont traduits par la même personne, très souvent, il s'est passé 6 mois ou 1 an entre les deux traductions et la personne a traduit autre chose qui n'a absolument aucun rapport avec l'univers Star Wars.
En fait, j'ai surtout commencé de la traduction d'albums pour enfants. Alors après, album, c'est très large, ça peut être vraiment les beaux livres qui font juste quelques pages avec une ligne par page, voilà, pour les tout petits. Mais ça peut aller aussi du côté des livres documentaires très techniques pour les enfants, pour leur expliquer, je sais pas, par exemple, la géologie ou le corps humain, ou des choses comme ça. Donc ça peut être après très pointu aussi. Et là, ma formation technique, ça m'a beaucoup aidée. Parce que voilà, ce qui est intéressant aussi chez le traducteur, c'est qu'on est spécialiste en rien et on est spécialiste dans l'art de chercher les infos. Donc voilà, on sait où les trouver sur Internet, on sait où les trouver dans les bibliothèques, etc. pour avoir l'info précise et puis devenir l'espace du temps de la traduction, un peu un spécialiste du sujet qu'on aborde. Voilà. Alors, souvent on l'oublie après, parce que les gens disent ah, c'est super. Tu dois tout savoir sur ça, sur laquelle tu as travaillé. Puis en fait, malheureusement, c'est un peu comme une éponge sur le coup, puis après, on l'oublie parce que sinon, il y aurait quelque chose. Mais et voilà, c'est aussi ce qui est intéressant dans le jeunesse, c'est tout cet aspect documentaire. Et puis, donc voilà, donc j'ai fait beaucoup d'albums, j'ai fait des documentaires, j'ai fait beaucoup de livres Disney aussi. Et puis, dernièrement, petit à petit, je m'approche du roman. Enfin, je me suis approchée du roman à travers Disney, d'ailleurs. D'abord, je faisais juste des albums Disney, puis après, ils m'ont demandé des romans pour jeunes adolescentes. C'était Anna Montana. Et voilà. Et donc, j'ai fait quelques romans, ça, et là-dessus, ça a plu beaucoup à jeunesse, enfin, Hachette Jeunesse Roman. Et ils m'ont demandé à commencer à faire des romans courts. Et là-dessus, j'ai fait des romans style plutôt garçon, parce que j'aurais expliqué, bon, moi, Anna Montana, j'ai bien aimé, mais aussi à moi, c'est plutôt garçon, plutôt fantaisie ou science-fiction, mais ou aventure, quoi. Et voilà. Et donc là, ils m'ont confié une petite série de romans de 4 tomes, qui s'appelle Les Légendes d'Avantia. Et là, qui est totalement fantasy pour petits garçons de 10-12 ans, quoi. Voilà. Donc ça, ça a été le gros truc que j'ai fait dernièrement, l'année dernière. Et puis, bah, c'est la Bibliothèque Verte. La Bibliothèque Verte appartient à Hachette Jeunesse Roman. Et après, bah, ils m'ont recontacté pour faire un.
Est-ce que tu as une préférence pour un genre précis?
Bah, moi, personnellement, comme je l'ai dit, bon, j'ai traduit des manuels. Non, moi, ce qui me plaît, c'est l'imaginaire. Toutes ces littératures de l'imaginaire, que ce soit du fantastique, de la SF, du space opéra, des uchronies, moi, ce qui me plaît, c'est ça, moi. C'est quelque chose qui aide à s'évader du quotidien. Moi, franchement, là où je prends mon pied, c'est quand je traduis vraiment des trucs qui, pour la personne qui lit, ça la sort de ses petits problèmes et tout, elle est transportée dans autre chose, quoi.
Alors, un genre, oui, bah alors, ouais, comme je te disais, ce que je préfère, c'est la littérature qui tourne autour de l'univers des garçons, c'est parce qu'on est dans le jeunesse, hein. Et puis après, dans l'adulte, je suis une grande lectrice de fantasy. Donc voilà, c'est vraiment un univers qui me plaît. J'aime bien quand on est dans le réel, quand on est dans l'imaginaire. Maintenant, j'ai aussi traduit un livre très terre à terre qui s'appelle Tsunami. C'est C'est un roman qui prend le tsunami de 2004 pour toile de fond. Et il se trouve que moi, j'étais en Thaïlande en 2004 au moment du tsunami. Et donc, ça m'a vachement intéressé ce projet. Et comme c'était pour une petite maison d'édition, on m'a proposé ça. Et là, c'est voilà, un roman très adulte et très terre à terre, très dur aussi, sur ce qui s'est passé en Thaïlande et en Indonésie en 2004. Donc voilà, ça m'arrive de faire des trucs qui sont très réalistes, mais c'est vrai que moi, si on me demande des goûts particuliers, c'est plus l'imaginaire, c'est plus la fantaisie et puis la science-fiction aussi. Voilà, j'aime énormément. Après, bah, je fais donc beaucoup d'albums pour enfants qui étaient très travaillés, très écrits, très littéraires, pour une autre maison d'édition qui s'appelle Quatre Fleuves. Et là, ils demandent des textes de qualité, etc. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. On reste dans l'imaginaire, mais on s'adresse à un public très jeune avec des histoires vraiment ciblées, quoi. Alors là, je fais de la traduction, mais je fais aussi de l'adaptation, c'est-à-dire que souvent, ils demandent un peu l'histoire. Et voilà, c'est passionnant parce qu'il y a vraiment un espace de création qui.
Non, en fait, c'est pas tellement un genre. D'abord, ce que j'aime bien, c'est que ça change. Parce que autant j'aime bien me replonger dans un Star Wars, mais je voudrais pas faire ça toute l'année, chaque année non plus. Ce que j'aime bien, c'est ce que je trouve agréable, c'est de retrouver le même auteur. Donc les séries, c'est assez agréable parce que, en fait, moi, je suis assez lente à démarrer. Je suis assez lente à me mettre dans l'écriture de l'auteur. Je vois un peu ça comme quand un copain te prête une bagnole où tu vois, faut que tu trouves les vitesses, faut que tu ajustes le siège. Il faut un petit peu de temps pour te sentir à l'aise. Donc, ce qui est agréable, c'est que quand tu as un bouquin du même auteur une deuxième fois, bah, tu perds pas tout ce temps d'ajustement. Donc, ça, je trouve ça vraiment très chouette pour les séries. Et autrement, bah, ce que j'aime bien, c'est quand il y a de l'humour. Parce que je trouve que c'est souvent un défi d'essayer de. Souvent, c'est assez idiomatique, donc c'est assez amusant d'essayer de trouver une comparaison qui va être rigolote, ou même simplement, bah, je m'amuse plus quand il y a de l'humour, quoi. Je me souviens c'était dans Les Nuits de Coruscant, mais je sais plus si c'était dans le 2 ou le 3, l'auteur avait inventé une espèce qui adore être insultée. Et donc c'était dans une administration, un petit fonctionnaire, et pour qu'il se montre un peu coopératif, il fallait l'insulter le plus possible. Et ça, enfin, moi, ça m'a vraiment fait rigoler de traduire ça, quoi. En plus, au début, tu lis ça, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de l'insulter, il va jamais obtenir ce qu'il veut. Et puis si, parce que c'est justement une espèce qui aime bien se faire insulter. Donc ça, voilà, on s'amuse plus. Enfin, moi, je m'amuse plus en tant que traductrice quand il y a des trucs un peu rigolos, quoi.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe la traduction d'un livre?
Ben pour Star Wars, par exemple, on a environ, en général, oui, je dirais 5 mois. Et donc, on reçoit le manuscrit en PDF, et puis on se débrouille. Nous, on travaille à deux sur les Star Wars, Nicolas et moi. Et donc, on fonctionne de la façon suivante. Moi, je traduis, je me renseigne sur les espèces, sur les planètes, je fais toute la recherche. Type propre à Star Wars. Et puis après, moi, j'ai fini mon boulot et lui reprend et le découvre comme un lecteur, le lit et améliore le plus possible, parce qu'il est écrivain de profession, donc il apporte une touche plus écrivain, quoi.
Bah, la traduction d'un livre, d'abord le traducteur ou la traductrice est forcément quelqu'un qui demande, est-ce que vous avez quelque chose d'autre? Donc, comme j'ai dit précédemment, on peut proposer, ben bah voilà, tiens, j'ai un truc sur le football. Bon. Bah, le football ne me passionne pas forcément, mais je vais dire ok. Après, il faut que je me renseigne sur certains trucs que je ne connais pas forcément. Bon. Ça peut être ça, ou alors ça peut être, et ben voilà, j'ai un space opéra, ça vous dit. Bon, moi, ça, évidemment, ça me dira un peu plus. Donc, la traduction d'un livre, comment ça se passe? D'abord, il y a l'acceptation du bouquin. Et selon le bouquin, ça peut être très différent. Bon, je parle que de mon expérience personnelle, mais un éditeur me propose une traduction et je dis ouais, ok, je prends. Alors, ou je prends, parce qu'il faut payer le loyer et remplir le frigo, ça c'est une chose, ou je prends, parce que en plus ça me plaît. Mais ce n'est pas toujours le pas. Par contre, je sais que si je prends, je peux faire le boulot. Déjà, le premier truc, c'est ça. C'est-à-dire que je lis la VO, et si je pense que je suis capable de faire la traduction, en respectant ce qu'a voulu dire l'auteur, je dis OK. Il m'est arrivé 3 ou 4 fois de dire non, là je ne me sens pas capable. Et de refuser une traduction alors que j'avais besoin quand même, derrière, il y avait un contrat, il y avait de l'argent qui allait tomber, et j'ai dit non, parce que là je vais saloper le boulot, c'est pas la peine. Je ne peux pas le faire. C'est pas mon truc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver aussi. Parce que je pense que le boulot du traducteur, c'est de rendre au mieux en français le texte qui lui est proposé en anglais. Sinon, c'est pas la peine. Après, la deuxième étape, c'est que l'éditeur dit, voilà, telle traduction, il faut que vous me la rendiez dans, par exemple, 3 mois. Et le traducteur ou la traductrice calcule. Bah ouais, c'est bon, je peux le faire, c'est OK. À ce moment-là, l'éditeur envoie le contrat. En règle générale, on a un tiers à la... Alors, on calcule la pagination, non pas... parce que tout le monde aura remarqué qu'il y a des bouquins qui sont écrits plus ou moins petits. Bon. Donc, en fait, ce que nous, on fait, c'est que on calcule le nombre de signes pour l'ouvrage qui nous est confié. Admettons, ça fait 1 million de signes. On ajoute 10% parce que les Français sont un peu plus longs pour expliquer les choses, et on divise par 1500 parce que le traducteur ou la traductrice rend des feuillets en double interligne de 60 signes ou espaces sur 25 lignes. C'est la façon de faire. Et on est payé sur cette base. Donc l'éditeur va dire, voilà, ça fait, nous on a calculé, ça fait 800 feuillets. Donc on vous paye tant de feuillets, donc on multiplie par 800, ça fait tant. Après, s'il y en a un peu moins, eh ben, à la fin, on vous donnera un peu moins. S'il y a un peu plus, on vous donnera un peu plus. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait 150 feuillets de plus, parce que là, l'éditeur va se dire, attends, il a tiré à la ligne, c'est pas possible. Mais bon, en règle générale, ça se joue à 10, 15 feuillets, un truc comme ça. Donc on fonctionne comme ça. Donc on a un délai de 3 mois, on se débrouille comme on veut, on part en vacances, en Thaïlande ou aux Seychelles ou à Lille, n'importe. Et il n'empêche que à la date convenue, on doit rendre la traduction. Et à partir du moment où on a rendu la traduction à la date convenue, c'est bon. Et après, ça roule. Et le traducteur touche, en règle générale, le solde, c'est-à-dire les 2/3, soit à réception de la traduction et acceptation, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lit et qui dit « bon, ça va, c'est bon », soit à parution, et là ça peut être plus compliqué, à parution de l'ouvrage. Mais il arrive, et ça m'est arrivé, que la maison de traduction ferme. Et dans ces cas-là, le traducteur se retrouve avec les 2/3 de sa traduction qui ne sont pas payés. Ce qui est un peu gênant au niveau de ses finances. Mais sinon, en gros, c'est comme ça que moi, j'ai vu les choses fonctionner. Après, peut-être pour d'autres gens, ça fonctionne différemment, je ne sais pas.
Alors, en fait, en général, c'est les éditeurs qui me contactent. Ils me disent, voilà, j'ai tel projet, j'ai tel délai, je te propose tel budget, est-ce que ça te va? Après, il y a quelques éditeurs qui marchent autrement, qui attendent qu'on soit à force de proposition, qu'on dise, bah, tiens, j'ai vu tel album anglais ou j'ai vu tel roman anglais. Est-ce que ça vous intéresse en ce moment? Il est bien et tout. Bon, ils peuvent nous demander aussi de faire le travail inverse. Et ils demandent à ce moment-là de proposer notre tarif et puis nos délais. Mais en général, c'est l'éditeur qui contacte et qui propose le projet, et puis toutes les infos, et après, ça peut te dire, bon, bah, OK ou non, tu peux un petit peu, tu peux dire si tu trouves que c'est pas assez cher, si t'as pas assez de délai par rapport à ton programme et tout, il y a moyen de négocier. Mais en gros, c'est eux qui proposent tout ça. Et voilà, à partir de ce moment-là, bah, t'as juste ta date butoir, et puis après, c'est toi qui t'organises comme tu veux pour faire ta traduction. Alors, en général, ils t'envoient le livre à traduire pour la poste, pour que tu l'aies sous les yeux, c'est même plus agréable. Mais ils t'envoient aussi le document, soit sous Word, soit sous PDF, pour que ce soit plus simple pour la traduction en soi, parce que ça, tu peux l'avoir sur ton écran. Et puis voilà, à partir de là, bah, c'est à toi de jouer. Alors après, dans le détail, moi je commence par lire le livre, bien sûr. Après, suivant le projet qui est défini, c'est-à-dire soit une traduction pure et dure, soit faire une adaptation, je vais faire plus ou moins de recherches avant. Par exemple, on m'avait déjà donné des contes à traduire, mais la version anglaise qu'on me donnait n'était pas la version originale, donc, et on me demandait en même temps d'adapter, c'est-à-dire de mettre un peu plus de texte. Donc dans ces cas-là, je fais pas mal de recherches. Je vais relire le conte original, etc. Je vais voir quel passage je peux récupérer pour remettre sur le texte que je vais rendre, etc. Donc il peut y avoir un travail avant la traduction d'elle-même de recherche. Mais sinon, souvent mes recherches, je les fais en parallèle. Et puis ensuite, donc une fois que la date butoir arrive, je rends mon document sous forme Word ou par mail. En général, je peux garder les livres originaux, ça c'est chouette. Et voilà. Et puis ensuite, l'éditeur va faire un premier travail de relecture qu'il me renvoie ensuite avec les corrections qui sont bien visibles. Ça me permet de voir ce que la personne a supprimé, par quoi elle a remplacé, souvent il y a des commentaires, etc. Dans ce cas-là, moi, je lui dis mon avis, je lui dis mon avis, je lui dis, bon, bah, telle chose, moi, je ne vais pas le supprimer pour telle ou telle raison, ou alors, je te propose encore une autre solution, ou, enfin, voilà. On donne son avis, et puis on revoit le document. Et là-dessus, après, on ne touche plus au document avant un bout de temps, c'est-à-dire que l'éditeur va refaire encore des allers-retours avec ses maquettistes, etc. Et on reçoit une version juste avant l'impression, qui est sous forme de PDF en général. Donc là, c'est vraiment une dernière, une ultime relecture pour si jamais il y a une énorme faute d'orthographe, typo voilà, qui nous apparaît, il y a moyen encore de corriger avant l'impression, mais ça va être juste des petites choses. Voilà. Et puis après ça, eh ben, on reçoit le bouquin en général une semaine avant sa sortie en magasin. Et voilà, c'est souvent un grand moment.
Si on trouve une faute à la page 142 d'un bouquin que tu as écrit, est-ce que c'est toi le responsable?
Alors c'est moi qui l'ai écrit, mais il y a quelqu'un qui est... En fait, pour Star Wars, il y a deux relectures. Il y a une relecture d'une personne spécialisée Star Wars et aussi d'un correcteur traditionnel. Donc, normalement, ça ne devrait pas arriver.
Alors bon, ça c'est très possible. Mais ça c'est une première étape. C'est-à-dire, il est très possible, et par exemple, je me souviens. Pour un Star Wars, j'avais mis Scrooge, Scourge. Bon. Le truc est un peu bizarre quand tu as écrit la traduction, tu relis la traduction. Une erreur qui va sauter aux yeux de n'importe quelle personne qui va lire le texte derrière toi, toi tu peux passer 10 fois dessus. Et pense que c'est ce qui s'est passé par exemple pour ça.
Alors, c'est possible, et c'est possible aussi que ce ne soit pas ma faute. C'est-à-dire que, en général, ça ne va pas être ma faute parce que les erreurs que moi j'aurais faites auront été prises en compte, enfin, repérées déjà par l'éditeur. En plus, il y a des correcteurs qui passent derrière l'éditeur. Donc, en général, les fautes qui apparaissent dans le livre, c'est les dernières corrections qui ont été faites au dernier moment. Et qui n'ont pas eu une relecture, qui n'ont pas été suivis par une relecture. Donc dans ces cas-là, c'est possible. Ou alors, il y a eu une relecture qui a été faite, on s'est rendu compte de la faute, mais il était déjà trop tard en fait pour corriger, sans que ça coûte très cher de faire la transformation sur le document qui était imprimé. C'est-à-dire que juste avant impression, en fait, les documents sont déjà alors, je ne sais pas trop les termes techniques, mais ils sont déjà sous d'autres formes qui sont très difficiles à corriger et ça coûte beaucoup plus cher. Donc parfois, il y a certaines petites fautes qu'on repère, mais qu'on ne peut pas se permettre vraiment de corriger au dernier moment. Voilà. Donc en général, mes fautes à moi, elles sont déjà passées au crible de plein de personnes. Et voilà, j'en fais, ça m'arrive. Et voilà, mais en général, elles ont déjà été corrigées. Et celles qui apparaissent dans les bouquins, c'est des fautes de dernière minute, quoi.
Alors jusqu'ici, les questions portaient surtout sur le métier de la traduction en général. On va maintenant s'intéresser à Star Wars en particulier. Quel est le premier livre Star Wars que tu as traduit?
Bah écoute, si je me trompe pas, ça devait être en 99 et c'était La menace fantôme. C'était assez marrant parce que j'ai dû signer une clause de confidentialité dans mon contrat de traducteur, ce que j'avais jamais fait avant. Et c'était une clause qui spécifiait que je ne devais parler à personne du contenu de la traduction. Et moi, évidemment, j'étais assez étonné. Le bouquin devait sortir vraiment en même temps que le film. Et moi, j'étais sous l'égide de Jean-Marc Toussaint, qui est un grand spécialiste de Star Wars. Donc, il n'y avait pas de deal par rapport à ça. Donc, je me suis mis en contact avec lui. Il m'a dit, il y a des trucs que tu sais pas, tu me demandes. Il a été impeccable. Ça s'est extrêmement bien passé. Mais l'ambiance était quand même. Bon, on bosse à la CIA, quoi. Quand même. C'est quasiment la seule traduction où il y a eu un truc comme ça, quoi. Où c'était vraiment, non, mais là, surtout, vous n'en parlez à personne, vous signez. Bon, bah, évidemment, j'en parle à personne. À l'époque, en plus, Internet n'était pas aussi développé, donc j'aurais pas pu balancer des trucs sur votre site, par exemple.
Alors le premier, c'était La menace fantôme, c'est la novélisation jeunesse de Patricia Weed, la bibliothèque verte commençant à faire un peu de Star Wars avec The Clone Wars, avec la sortie là, des films en 3D, enfin, du premier en tout cas. Ils se sont dit que ça pouvait être pas mal d'avoir la novélisation des différents films aussi dans leur collection. Donc voilà, c'était celui-là, il est sorti là le 18 avril. Et voilà, c'était le premier.
Alors, je pense que c'était en 2008, si je ne me trompe. Donc, c'était Le pouvoir de la force, ma première expérience de traduction de livre.
L'univers Star Wars est immense et très complexe. Comment tu fais pour t'y retrouver?
Alors là, j'ai été vraiment à fond, parce que comme c'était le premier, donc j'ai emprunté une encyclopédie à la bibliothèque, j'ai commencé à fouiller tous les sites internet, j'ai acheté une Ouï. C'est pas moi qui l'ai fait, donc je traduis avec mon mari Nicolas. Il a fait le jeu Le pouvoir de la force. J'ai acheté la BD. Je voulais vraiment être sûre de mettre le plus possible dans l'univers parce que ça me foutait un peu la trouille en fait. Parce que voilà, j'avais vu les films, mais j'avais l'impression que c'était peut-être pas assez. Et je voulais vraiment être sûre de ne rien manquer. Mais en même temps, plus je m'intéressais au sujet, plus je remarquais qu'il y avait des dizaines de traductions différentes qui coexistaient pour le même terme. C'était peut-être encore plus le bordel du fait que je m'étais plongée dedans. Voilà, et puis depuis, bah, je continue à. Bah, par exemple, quand je suis sur un chapitre qui parle d'une planète que je ne connais pas, bah, je commence par aller lire la description de la planète pour voir les termes utilisés et essayer de ne pas me tromper.
Bah écoute, très franchement, au début, j'étais un peu paumé. Moi, j'avais vu les premiers Star Wars en salle, à leur sortie, et puis après, je suis passé à autre chose. J'ai vu d'autres films, j'ai lu d'autres bouquins, je m'étais pas collé sur le truc, quoi. Et puis, quand on m'a proposé de faire la trad, bah du coup, je me suis un peu replongé dans le bain, quoi. Et je me suis plus intéressé. J'ai revu les Star Wars que j'avais. J'ai essayé de me remettre dans l'ambiance, quoi.
Alors, en fait, il se trouve que je suis une grande fan de Star Wars depuis que je suis toute petite. J'avais des grands frères qui les ont découverts au cinéma. Et donc, au final, je les ai découverts depuis toute petite. Je les ai regardés à la télé. Et j'étais une grande fan. J'ai aussi lu pas mal de bouquins. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que je connais déjà. mais on ne peut pas tout connaître, c'est pas possible. Comme tu dis, c'est un univers vraiment très riche, très énorme, donc c'est gigantesque. Je pense que personne ne connaît tout, voilà, sur Star Wars et sur les univers qui tournent autour. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise les différentes encyclopédies qui existent en ligne, qui sont toutes très riches, qui ont chacune leur spécificité. Et donc, moi, je trouve ça pas mal qu'il y ait différentes encyclopédies qui existent. Je sais que pour tel type, par exemple, de vaisseau, je vais plutôt le trouver dans telle encyclopédie. Pour les personnages, je sais que ça va être beaucoup plus riche sur tel autre site. Voilà, donc je les retrouve un peu comme ça. Il y a aussi la Wikipédia anglaise qui est très 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 complète, donc ça me permet déjà d'avoir des infos en anglais sur l'objet, la race que je cherche, et ensuite de faire la recherche sur les différents sites français. Voilà, ce qui n'est pas encore très pratique pour les traducteurs, c'est que les encyclopédies ne proposent pas toutes un lien d'abord anglais-français, c'est-à-dire que on puisse rentrer le terme en anglais dans la base de recherche, et puis ça nous donne la fiche en français. Alors, je sais que dans l'univers, comment ça faire ça, et ça, c'est super, parce que ça nous fait gagner un temps fou. Et ça, c'est vraiment chouette. Voilà, donc en gros, c'est tout ça. Après, j'ai quelques bouquins sur les engins, les lieux, des différentes périodes de Star Wars, qui me permet aussi de me renseigner sur les traductions qui ont déjà été faites. Maintenant, je suis assez précautionneuse avec ces livres parce que souvent les traductions n'ont pas toujours été très bien faites non plus, sans prendre en compte nécessairement ce qui avait été fait dans l'univers étendu, ce qui avait été choisi comme traduction. Donc je fais gaffe parce que bon, plusieurs éditeurs différents et donc on a des bouquins qui proposent des traductions différentes à chaque fois. Donc voilà, c'est aussi un point difficile, c'est que on a souvent plusieurs options de traduction pour un même terme anglais, et il faut savoir lequel choisir. Un souci. Après, en général, ce que je fais aussi un petit peu, c'est d'aller sur le forum de Star Wars Universe, je pose des questions aux fans qui sont présents, leur dire qu'est-ce que vous en pensez, à votre avis, quel est le meilleur terme, voilà. Et puis, je pose aussi quelques questions que je retrouve pas dans les encyclopédies. Il y a certaines questions, les fans connaissent, et puis ils se rappellent qu'ils ont lu dans tel ou tel livre, et donc ils vont chercher, ils me donnent l'info, ça c'est vachement précieux. Voilà, en gros, ce que je fais pour les retrouver.
Est-ce que tu lis d'autres livres de la licence?
Alors non, je lis beaucoup plus que ce que je traduis, parce que j'en ai pas encore beaucoup ce que je traduis, mais non, non, depuis que je suis petite, en fait, depuis que j'aime Star Wars, En fait, j'ai appris à parler anglais et à lire l'anglais grâce à Star Wars. J'ai commencé à lire en anglais dans les livres Star Wars qui n'étaient pas encore traduits en français. Donc voilà, quand j'étais ado, j'ai beaucoup lu. Maintenant, ça commence à remonter à une bonne dizaine d'années où j'ai pas lu de livres de l'univers étendu. Mais de 13 à 20 ans, j'en ai lu pas mal. Donc voilà, ceux qui sont sortis. Avant, il y a plus de 10 ans, je les ai lues toutes. Enfin, peut-être pas les Rogue Squadron, je ne sais pas s'ils étaient déjà sortis à cette époque-là. Ceux-là, je ne les ai pas lus parce que bon, j'aime bien les trucs de garçons, mais quand même. Voilà, mais sinon, j'avais tout lu à cette époque-là. Maintenant, j'ai pas mal de retard à rattraper.
Non, j'en ai lu quelques-uns, et par contre, pas les mêmes, parce qu'en général, enfin, je veux dire, je les traduis, mais après, je les relis pas. Parce que je crois que j'ai pas envie, ça me fait un peu peur aussi de tomber sur une bêtise. Donc en général, je les ouvre 2 secondes, mais je les referme très vite.
Bah, très honnêtement, comme je dis, très souvent, la vie d'un traducteur, c'est passer d'un truc à un autre qui, des fois, n'ont aucun rapport. J'ai lu les romans qui avaient trait à ce que je traduisais pour Star Wars pour essayer de me caler, c'est-à-dire les romans qu'il y avait avant, si c'était une suite, mais sinon, effectivement, j'ai pas lu les Star Wars de façon extensive, quoi. Bon, on va pas mentir, je suis pas un fan absolu de Star Wars, même si j'aime beaucoup, et que j'ai été très agréablement surpris par la qualité d'écriture des bouquins, parce que présentés comme des bouquins au rabais, alors qu'il y a des trucs qui sont très très bien développés et que moi j'ai beaucoup aimé traduire et lire. Mais bon, il faut quand même reconnaître que par rapport à Star Wars, il y a la majorité des gens disent « Ah bah ouais, c'est... comment dire ?» Sans être méchant. C'est des attardés qui s'habillent avec des grandes capes et qui jouent... alors qu'il y a beaucoup plus que ça dans Star Wars. Et moi, je l'ai découvert en traduisant. Et d'ailleurs, je suis reconnaissant au fait que non seulement ça remplit mon frigo, mais en plus... ça m'a apporté beaucoup. Je trouve que l'univers Star Wars est plein de richesses que beaucoup de gens feraient bien de découvrir.
Quel est ton livre Star Wars préféré?
J'aime beaucoup Dark Plagueis. Je trouve que l'histoire est vraiment, vraiment intéressante et j'aime bien l'auteur, je trouve qu'il écrit bien. Donc voilà, je dirais que c'est celui-là.
J'ai aimé faire Barben, les deux Barben. J'ai aimé faire Revan, mais c'est le même auteur. Et puis en même temps, le premier truc qui m'a vraiment marqué, c'est True Colors de Travis, parce qu'il y a une plongée dans un univers particulier, celui des Mandalore. Enfin, moi j'ai trouvé qu'elle creusait vraiment. Alors, on peut trouver qu'il y a des moments... C'est un peu chiant, c'est un peu long. Et j'ai lu tous les commentaires. Parce que moi, je suis un adepte du site, donc je lis. Je ne fais pas forcément de commentaires, mais je lis. Parce que c'est vachement intéressant tout ce que je vois. Et je comprends bien qu'il y ait plein de gens qui aient dit « Ouais, non, mais putain, elle tire à la ligne, c'est gonflant. » Ouais, ouais, mais en même temps, elle tisse un décor, elle pose un monde... qui n'était avant elle qu'ébauché, et moi je trouve que c'est bien. Mais après, bon, c'est peut-être mon côté un peu trop littéraire, je sais pas. Non. Mais moi, Travis, avec tous les défauts qu'elle a, parce qu'elle a énormément de défauts, dans les bouquins de République Commando, moi je trouve qu'elle a fait du bon boulot, quoi.
Ouais, alors je vais pas être très très originale, hein. Moi j'ai beaucoup aimé la trilogie d'Amiral Throne, enfin la première. Voilà, oui, donc c'est surtout la trilogie Croisade Noire du Jedi Fou qui m'a le plus plu. Faut dire que c'est la première que j'ai vraiment lue après avoir lu les novélisations des romans. Donc ça a été vraiment celle qui m'a happée dans l'univers étendu. Après, il y a plein de petits livres autour qui sont pas nécessairement anthologiques, qui m'ont bien plu, qui font pas partie nécessairement de séries. J'ai un peu de mal avec le Nouvel Ordre Jedi. Je risque de pas me faire des copains avec ça, mais ouais, j'ai un peu de mal. Et puis après, il y a des petits péchés mignons comme le mariage de la princesse Leia. Voilà, c'est pas une référence littéraire, mais et puis voilà, il y a pas mal de choses qui correspondent pas trop. À l'univers, mais bon, moi, en tant que midinette de 14 ans, j'ai adoré le lire, parce que voilà, ça m'a fait rêver avec mes personnages préférés, quoi. Mais je sais pas, si je le relisais aujourd'hui, je sais pas quelle impression j'aurais. Mais voilà, sinon, quoi d'autre? Bon, non, c'est surtout, voilà, surtout Timothy Dan, bien sûr, et puis beaucoup d'autres, mais maintenant, comme ça fait 10 ans, il faudrait que je me replonge dedans, parce que j'en ai oublié plein.
Et enfin, notre dernière question. Qu'est-ce que tu traduis en ce moment et quand est-ce que ça sort?
Ben en ce moment, en fait, je suis sur la biographie de Dark Maul, qui est en fait la biographie de Ryder Windham. Donc, la Bibliothèque Verte a sorti plusieurs biographies de Ryder Windham. Donc, il y a eu la biographie de Dark Vador, de Luke Skywalker, puis d'Obi-Wan Kenobi, que j'avais traduite, qui est sortie ce mois d'août, là. Et donc là, je suis en train de traduire celle de Maul pour l'année prochaine, le début d'année prochaine. Et voilà, donc je bosse là-dessus. Et puis je vais bosser sur deux autres bouquins en Star Wars après. Mais ça, c'est encore surprise et secret défense. Voilà.
Il y a plusieurs choses. Hors Star Wars, je viens de terminer de relire les épreuves du dernier volume de Journal d'un vampire. la série pour ados, dont il y a une série télé aussi. Et ça va sortir début d'année. En Star Wars, moi j'ai fini c'est Fate of the Jedi Omen, donc le deuxième volet de la série en 9 volumes. Et j'ai terminé, je crois, il y a une semaine ou deux. Et je sais pas quand ça sort en fait, parce que le premier n'est pas encore sorti. Mais bon, je sais pas, j'imagine peut-être en juin, quelque chose comme ça. Et là, je suis dans la phase traduction d'une autre série qui n'a rien à voir, qui est Janet Evanovich. C'est une série, c'est une chasseuse de primes sexy. Il y a eu un film aussi. C'est assez rigolo en fait. Voilà. Mais ça n'a absolument rien à voir non plus. Mais comme je disais, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on passe d'un univers à l'autre.
Ah, alors ce que je traduis en ce moment, c'est Abyss, donc vous connaissez très bien. Je n'ai pas voulu lire la suite pour garder la saveur de la découverte. Mais pour ceux qui n'ont pas lu Abyss, de ce que j'ai commencé à traduire, c'est vraiment intriguant, on va dire. Donc je travaille sur un bouquin de photos sur Bombay et Delhi. Et sinon, je vais peut-être faire un space opéra, dont peut-être on reparlera, mais pour l'instant, je peux pas dire grand chose parce que le contrat n'est pas signé, donc je veux pas trop m'avancer, mais c'est du lourd et à mon avis ça devrait plaire aux gens qui fréquentent le site.
Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Maintenant, vous savez tout sur la traduction des romans Star Wars. J'espère que cette interview vous aura intéressé. Et en tout cas, je voudrais adresser un grand merci à ces traducteurs qui ont tous accepté de jouer le jeu. Merci donc à Lucille Galliot.
Eh bien, merci à toi de me l'avoir proposé.
Merci à Axel Demoulin.
Ben, merci à toi.
Et merci à Thierry Arson.
Un grand merci à tous les gens qui font vivre la collection parce que ça me permet de faire des traductions aussi.
Et s'il vous reste des questions, je suis sûr qu'ils se feront un plaisir d'y répondre sur le topic des traducteurs sur le forum. Voilà, c'est la fin de cette saison 2 du Star Wars Universe Show. Je vous donne donc rendez-vous sur le site et sur le forum pour discuter de la suite.
Don't fail me again.